Que le nom du Seigneur soit béni. Écoutons, oui, sa parole, écoutons, afin d'être nourris, fortifiés. Nous allons lire la prière d'un homme dans le livre de Néhémie, un homme qui a été confronté à beaucoup d'adversités, beaucoup d'adversités. Mais voilà, il voulait faire l'œuvre de Dieu. Y a-t-il parmi nous ce soir des jeunes, des moins jeunes, des couples qui veulent faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est important pour vous de dire, moi je veux faire ce que tu veux que je fasse? C'est ce que Jésus nous enseigne quand il demande de prier, notre Père, que ta volonté soit faite. Est-ce que c'est important? Répondez-moi. C'est très sérieux, je vous demande de me répondre, pas parce que je veux savoir, mais parce que je veux que vous compreniez que notre raison d'être, c'est d'entretenir notre salut, mais après, c'est d'être utile à l'œuvre de Dieu. Néhémie, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, je crois qu'il y a 12 chapitres, il a été interpellé lorsqu'il a appris quel était l'état de Jérusalem, il était en captivité, il avait un bon poste de fonctionnaire dans la capitale, mais quand des frères lui ont dit, mais tu sais, si tu savais l'état de Jérusalem, cet homme il a été bouleversé. Dieu a vu le cœur de cet homme et il a voulu faire l'œuvre de Dieu. Et dès qu'il a voulu faire l'œuvre de Dieu, il a été confronté à toute l'opposition possible. Vous lirez ce livre et vous verrez toutes les fois où cet homme est confronté à de l'opposition de la part des ennemis et même de la part du peuple de Dieu. Et à un moment donné, il va dire quelque chose et il fait une prière. Néhémie chapitre 6, verset 9. Je vous encourage à lire ce livre. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de méditer un livre. En tant que pasteur, on doit le faire. On doit le faire, pourquoi? Parce qu'il faut enseigner certains sujets qui ne peuvent qu'être enseignés que si nous méditons la parole de Dieu. Mais lisez ce livre et regardez toute l'opposition et regardez la réaction. Ce soir, nous sommes venus pourquoi? Peut-être parce que vous voulez obtenir le salut de votre âme, vous pourrez l'obtenir. Peut-être vous êtes venus parce que vous voulez comprendre l'œuvre de Dieu, vous allez pouvoir y entrer. Mais une chose est certaine, que ce soit pour le salut de votre âme, que ce soit pour être utile à l'œuvre de Dieu, il faut que vous soyez fortifiés. Regardez donc la prière de cet homme. Néhémie, chapitre 6, verset 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage. Voilà, ça c'est le programme du diable. Hein, vouloir nous effrayer et nous faire perdre courage. Et l'œuvre ne se fera pas. Voilà ce que le diable veut. Que vous ne vous convertissiez pas si vous êtes perdu, et si vous êtes chrétien, que l'œuvre de Dieu ne se fasse pas. Regardez la réaction de cet homme, ça tient en quelques mots, cinq mots. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Amen. Ça peut être la prière de quelqu'un ce soir qui prend position par rapport à l'adversité, au découragement, aux épreuves, aux combats, aux luttes, aux faiblesses. Il y en a des choses dans la vie, non, qui peuvent essayer de nous effrayer. Maintenant, ô mon Dieu, fortifie-moi. Est-ce que ça peut être la prière de quelqu'un ce soir? En cinq mots, est-ce que Dieu va exaucer cette prière d'après vous? Oui, ça n'a pas duré des heures, quoique dans les mois passés, Néhémie avait passé beaucoup de temps dans la prière. Mais il y a des prières qu'on pourrait appeler éclairs, des prières qui sont vite prononcées, mais qui correspondent à un besoin. Maintenant, c'est maintenant, là, ce soir, le 24 avril 2012, Seigneur, ce soir, fortifie-moi. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le seul moyen d'être prêt quand Jésus reviendra nous chercher. Regardez avec moi dans Luc 21. Dans Luc 21, c'est un petit peu la suite de ce qu'on a vu dimanche. Jésus enseigne comment être debout quand il reviendra nous chercher. Ce matin, je lisais l'Apocalypse, et quand on voit l'épouse dans l'Église et l'Esprit de Dieu qui prie, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Ils sont d'accord. De toute façon, le Saint-Esprit et l'Église doivent être d'accord. Je vous le dis, si l'Esprit de Dieu n'est pas en accord avec l'Église, ça va créer des problèmes. Oui, Jésus a dit il y a 2000 ans « Je viens bientôt ». Bon, c'est vrai que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Ça fait que ça relativise énormément, mais ça nous permet de comprendre que plus le temps passe, quand même, plus cette échéance approche. Donc dans Luc 21, au verset 36, Jésus donne deux conseils qui sont introduits dans la même parole pour que vous ayez de la force. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être fort? En tout cas, Dieu veut que vous soyez fort. Est-ce que vous voulez être fort? Est-ce que c'est important? Ben oui, c'est important. C'est la volonté de Dieu. C'est comme dimanche. Si vous n'étiez pas là dimanche, vous allez peut-être avoir du mal à répondre. Est-ce que vous voulez être riche? Pourquoi? Être riche? De quoi vous voulez être riche? Hein, Jésus a dit, je te conseille d'acheter de l'or éprouvé afin que tu deviennes riche. Il y a une richesse spirituelle. On n'est pas dans le domaine matériel, on est dans le domaine spirituel. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez riche spirituellement. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez fort. C'est même présenté d'une manière un petit peu extraordinaire dans l'Ancien Testament. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça, c'est ramené à des ordres, parce que ce sont des commandements. On va le voir quand Dieu dit à Josué, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ?» Fortifie-toi. J'espère que vous aimez les ordres. Vous aimez les ordres? Vous aimez qu'on vous donne des ordres? Est-ce que vous avez un patron qui vous dit, fais ça, fais ci? Il y a une sœur l'autre jour qui est venue me voir, elle me dit, il y a mon patron, ça ne me va pas. Il me demande de faire des fois autre chose que ce qui est dans mon travail. Faites ceci. Je crois que Dieu peut nous éprouver parfois, après tout. Hein? C'est possible, mais quand ça vient de Dieu, les ordres, ne vous inquiétez pas que derrière, ça doit être une bonne chose. Quand Dieu a dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre, croyez-moi, c'était pour le bien de Josué. Quand Dieu donne un ordre, soyons intelligents, soyons intelligents. C'est vrai que dans le monde, des mauvais patrons, des mauvais parents peuvent donner de mauvais ordres. Mais quand Dieu donne des ordres, ce sont tous des ordres intelligents. Regardons dans Luc 21 au verset 36, ce que Jésus dit, c'est pas compliqué. Il n'y a pas 36 méthodes, il y a un état d'esprit. Veillez donc et priez en tout temps. C'est pas compliqué. Veillez donc et priez en tout temps. Pourquoi? Afin que vous ayez la force. Je répète. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Je rappelle, pour les novices, c'est une prophétie. Quand c'est écrit les choses qui arriveront, c'est pas de l'enseignement, je veux dire, théologique, c'est une prophétie. Ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Alors, est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui seront debout quand Jésus va revenir? Est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui seront forts? Alors, écoutez bien ce que nous allons partager. Ça tient à quelques conseils. Pour certains, ça va être des répétitions. Mais je crois que c'est bien de réentendre certaines choses parce que Dieu veut que vous soyez riches spirituellement. Dieu veut que vous soyez forts. Et par la grâce de Dieu, vous pourrez peut-être arriver à ce stade où vous direz avec plein de confiance, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est une vérité. Et ça ne dépend pas de nos capacités, de notre état, je veux dire, intellectuel. Ça dépend de la grâce de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous n'auriez que 6 mois de conversion. Vous pouvez vous attribuer cette bénédiction par Jésus-Christ, par sa grâce. Nous sommes fortifiés par la grâce. Mais bien sûr, cela dépend de ce que l'on va voir, l'importance de travailler afin que nous ayons une foi ferme. Alors on va lire notre texte parce qu'il va vous introduire dans le sujet. C'est dans 1 Pierre au chapitre 5. C'est un texte qui est adressé aux anciens, mais bien sûr, s'il est adressé aux anciens, à plus forte raison, il est également adressé aussi aux chrétiens. Un texte plein de conseils pour qu'on puisse vivre et faire l'œuvre de Dieu dans les meilleures conditions. Car quand même, l'œuvre de Dieu, c'est un combat. C'est un combat, c'est un bon combat, ou c'est un mauvais combat. Alors, 1 Pierre chapitre 5, au verset 7, il est dit ceci. On va lire du verset 7 au verset 9, car il y a dedans pas mal de choses à partager. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Vous entendez, frères et sœurs? Est-ce que vous avez eu des soucis aujourd'hui? Tiens donc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez eu des soucis? Est-ce que ça peut arriver d'avoir des soucis? Ben oui. Il y a des soucis, puis des fois, même, c'est même pas les nôtres, ce sont ceux des autres qui nous préoccupent. Vous voyez, les soucis, il y en a. Des soucis, il y en a. Le Seigneur n'a pas dit, ce n'est pas normal que vous ayez des soucis, je ne comprends pas. Non, Jésus a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ne vous dites pas, je ne suis pas spirituel, j'ai des soucis, c'est pas normal, il y a un truc qui ne va pas dans ma vie. Non. Le Seigneur, je répète, n'a pas dit, ce n'est pas normal que vous ayez des soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est comme pour les inquiétudes, il n'a pas dit ce n'est pas normal que vous vous inquiétez. Non, il a dit ne vous inquiétez de rien. Alors, verset 8, soyez sobres, veillez voyez, on en revient toujours à ce mot qui est la solution, en fin de compte. C'est ce qu'on fait ce soir. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On est en train de veiller, afin que notre âme soit enseignée, nourrie, etc. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde, pas comme un corbeau, mais comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Et ce n'est pas la première fois que j'entends dire que des corbeaux ont mangé des petits poulets ou des petits canards dans des fermes. Et certains, je vous assure, je vous le dis parce que c'est, il y avait un monsieur qui élevait des canards et tous les canards mouraient et disparaissaient l'un après l'autre. Et un jour, il s'est levé le matin de bonne heure, il a pris ses jumelles, il s'est mis à 500 mètres de la ferme, il a regardé comment les corbeaux faisaient. Et bien, un corbeau passait au-dessus de la ferme, il regardait quand les canards se levaient, enfin quand ils se levaient, oui, ils sortaient. Il faisait un tour, et puis il repassait, et par derrière, en volant, tac, un coup de bec, d'un coup de bec, il le tuait, puis il revenait, il le cherchait. Et il les a tous tués comme ça. Vous vous rendez compte? Et puis il s'est occupé du corbeau. Enfin, mais vous savez, c'est impressionnant quand même. Hein, enfin, je vous dis ça parce qu'on a entendu parler du petit poussin qui est accroché dans les ailes. Alors, cherchant, vous allez voir, parce que j'ai pensé à une histoire en lisant ce texte tout à l'heure. Résistez-lui avec une foi ferme. Voilà la solution, c'est la même chose que veiller une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce verset nous rappelle que dans le monde entier, tous les frères et sœurs, bien sûr, sont soumis aux mêmes souffrances. On a tous des souffrances, oui ou non? Bien sûr, certains souffrent plus que d'autres, c'est sûr. Et que la souffrance, ce n'est pas le sujet qui nous préoccupe ce soir, on peut souffrir à cause de nos péchés. Est-ce qu'on peut souffrir à cause de nos péchés? Est-ce qu'on peut souffrir à cause du péché des autres? Est-ce qu'une femme peut souffrir à cause de l'alcoolémie de son mari, par exemple? La souffrance est un sujet tellement vaste. De la souffrance, il y en a. C'est un sujet extrêmement sérieux qu'on ne peut pas aborder n'importe comment. Mais ce texte nous rappelle que tout le monde souffre et que tous les frères dans le monde sont sujets à toutes sortes de souffrances. Les difficultés, on a parlé des soucis, il y a les luttes, il y a les combats, et bien des choses. Oui, nous sommes tous accablés par des souffrances. Alors il y a une seule attitude, on vient de le lire, c'est de combattre et de résister au diable avec une foi ferme. La foi, beaucoup viennent dans les églises, mais n'ont pas la foi. Ils ont la foi, mais enfin quand ils prient, ils ne savent pas si Dieu les entend. Ils prient, mais ils vivent continuellement dans le doute. Vous comprenez bien que la foi dont on est en train d'évoquer ce soir, c'est une foi vivante. Une foi qui remporte des victoires, une foi qui chasse les démons, une foi qui remporte, qui apporte la guérison. Est-ce que vous voulez cette foi vivante? Ça serait quand même triste ou net que l'on vienne dans une église et que notre foi soit une foi de façade, une foi d'apparence, une foi superficielle. Non, Dieu veut une foi vivante. Cette foi vivante, elle vient par la parole de Dieu. Il faut résister au diable. Le diable, il cherche comme un lion rugissant qui il dévorera. Et tout à l'heure, en priant, j'ai pensé à une histoire qui s'est passée dans le livre des rois. Vous avez certainement lu dans le livre des rois une drôle d'histoire entre un homme de Dieu et un vieux prophète. Vous ne connaissez pas cette histoire, je vous la résume. Moi, la première fois que j'ai lu ça, je n'ai pas compris. C'est un homme de Dieu qui va dans une ville, il a une mission à accomplir, et Dieu lui avait précisé, avant qu'il ne commence cette mission, de faire cette affaire et de ne rien boire, et de ne rien manger et qu'il retourne chez lui. Vous vous rappelez cette histoire? Puis, quand il arrive dans la ville en question, il rencontre un vieux prophète. Et ce vieux prophète l'invite à manger. Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez cette histoire? Et ce vieux prophète dit, non, tu peux manger. Et Dieu, alors qu'il est en train de manger, va lui montrer sa désapprobation. Et quand il va revenir chez lui, le lion va le dévorer, va le tuer. Et je pensais à cette histoire parce que je viens d'être confronté à une situation qui m'a beaucoup interpellé, ça me concerne à moi. Et Dieu nous donne certaines choses, nous demande certaines choses. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h. Si Dieu a dit quelque chose, n'écoutons pas même certains chrétiens qui pourraient, par révélation, nous dire autre chose que ce que la parole de Dieu nous enseigne. Parce que ce vieux prophète parle de quelqu'un qui n'a plus la bénédiction de Dieu, comme le vieux prophète Élie. Alors vieux, dans la Bible, ça peut être très honorifique, dans le sens ça parle d'expérience, mais vieux, ça peut être aussi dans le sens de quelqu'un qui n'a plus cette jeunesse spirituelle, cette fraîcheur spirituelle. Et ce vieux prophète représente les chrétiens qui n'ont plus d'onction et qui peuvent donner de mauvais conseils de la part de Dieu et qui feront que le diable aura pouvoir sur nous. Nous devons veiller à respecter la parole de Dieu. Quand, je prends un exemple que j'ai souvent cité. Quand Dieu dit de ne pas se mettre avec un infidèle, ça ne peut pas être plus clair. Mais quand quelqu'un va dire, on l'a entendu dernièrement avec ma femme, une femme de serviteur de Dieu qui a dit à une jeune fille, « Oh, mais c'est pas grave si tu te maries avec un inconverti. » C'est ça le vieux prophète. Cette femme, elle est jeune, mais elle représente quelqu'un de vieux dans le sens où spirituellement, elle n'est plus dans le coup. C'est ça. Et ne nous étonnons pas après que le lion arrive à dévorer les situations parce que nous n'avons pas résisté au Seigneur, au diable avec une foi ferme. Mes frères et sœurs, Jésus va bientôt revenir. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un scoop. Tout converge pour que nous comprenions que le Seigneur va bientôt chercher l'Église. Il y en aura qui sont prêts, beaucoup ne le seront pas. Ceux qui seront prêts, ce sont ceux qui auront été sérieux avec des instructions spirituelles comme celles que nous évoquons ce soir. Ceux qui vont dire « oui, je vais veiller et je vais prier ». Puisque c'est le seul moyen d'être fort, d'avoir de la force pour paraître debout. Je vais résister avec une foi ferme. Est-ce que ma foi est la foi qui plaît à Dieu? Parce qu'il y a une foi qui est superficielle et il y a une foi qui plaît à Dieu. D'ailleurs, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi qui plaît à Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est cette foi qui croit ce que Dieu dit. Dieu l'a dit, je le crois. Je ne suis pas dans ce cursus diabolique. Oui, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Vous savez, le diable, il fait feu de tout bois. Peut-être que Dieu vous a fait une promesse il y a 20 ans. Tiens, est-ce que ça pourrait que Dieu vous ait fait une promesse il y a 20 ans qui ne se soit pas encore exaucée? Eh bien, si Dieu vous l'a faite, elle s'accomplira. Ne vous inquiétez pas, quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si ça vient, bien sûr, si ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas obligé que ça s'accomplisse. Pour résister au diable, il faut une foi ferme, une foi qui ne recule pas comme cette veuve dans la parabole du juge inique qui a persévéré, elle avait le droit pour elle, elle avait le droit de son côté, elle a persévéré, elle a obtenu gain de cause. Si Dieu vous a dit quelque chose, vous pouvez persévérer. Si Dieu vous a dit que toi et ta maison vous serez sauvés, eh bien vous pouvez persévérer, vous et votre maison vous serez sauvés. Parce que c'est possible que Dieu vous ait fait la promesse que Dieu a faite au geôlier. Toi et ta famille, tu seras sauvé. Est-ce que vous pouvez avoir reçu cette parole? Eh bien, vous, si vous l'avez reçue dans votre cœur par le Saint-Esprit, votre famille et vous-même, vous serez sauvés. Quand Dieu dit quelque chose, il faut s'y accrocher. Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est nous qui choisissons. Vous avez choisi de venir ce soir dans la maison de Dieu. Vous avez également le droit de choisir quel est le genre de foi que vous voulez avoir. Moi, je suis stupéfait lorsque je parle avec certains chrétiens qui ont une foi tellement superficielle que dès qu'il y a un coup de vent, c'est fini. C'est fini, on le voit. Pourquoi vous ne venez plus à l'église? Ah, on s'est moqué de moi au travail, je n'accepte pas ça. Si c'est ça être chrétien, ils n'avaient pas la foi. Oui, ils ont été guéris. Oui, Dieu les a bénis, mais ils n'ont pas la foi. Ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas la foi. La foi, c'est obéir à Dieu parce qu'on lui fait profondément confiance. Alors, si on a une foi vivante, il faudrait quand même que dans l'église, nos prières deviennent plus ferventes. La maison de Dieu soit être une maison où les chrétiens sont pleins de ferveur. Comment se fait-il, si Dieu est si puissant que ça, que nos prières soient souvent timides? C'est des questions qu'on peut quand même poser. Oui ou non? On peut les poser ces questions? Ben oui. Est-ce que vous croyez que Dieu exauce la prière? Que Dieu entend la prière? Est-ce que vous croyez que Dieu nous voit et nous entend lorsque l'on prie? Est-ce que vous croyez que Dieu a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre? Alors comment se fait-il que nos prières soient si timides, qu'on soit un petit peu coincé, j'ose pas prier? Il y a un problème à régler. Et ça dépend d'une décision. Je prends la décision de prier, j'ai pas confiance dans ma prière, j'ai confiance en Dieu, alors je prie. Je prie avec 10 mots ou je prie avec 10 phrases. C'est pas ça qui est important, mais je prie de tout mon cœur parce que Dieu exauce la prière. Oui, on a un Dieu qui exauce la prière. Alors, mes frères et sœurs, cela devrait nous encourager à ce que nous ayons tous des prières ferventes, des prières vivantes, que nous ne soyons pas timides, ni coincés, ni bloqués, comme on l'a chanté. Mais que craindrais-je avec le Dieu que nous avons? Soyons comme ces petits poussins à l'abri des ailes de la poule. Oui, nos prières, mes frères et sœurs, doivent être des prières de foi. Parce que si on aborde le sujet de résister à Dieu, de veiller et de prier avec des prières superficielles, ça va pas aller ensemble. Si on parle d'être fortifié, c'est fortifié par la foi, donc avec une foi vivante. Quand vous priez, ne doutez pas. Là, on vient de prier, on était tous ensemble. Demain matin, vous allez vous lever, avant de partir au travail, vous allez être tout seul dans votre bureau, dans votre salon, dans votre chambre. Ça ne change rien. Le Seigneur est avec vous, vous devez faire des prières ferventes. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut être fortifié. Vous avez vu, Néhémie, lisez ce livre. Regardez l'opposition. Néhémie était un homme, bien sûr, sérieux, mais devant l'opposition, il a dit « maintenant ». Mais maintenant, ce n'est pas demain. C'était pas pour hier ou dans 3 semaines, c'est maintenant. Parce qu'aujourd'hui, je suis confronté à de l'adversité, je suis confronté à de l'opposition. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Il y a des prières que Dieu exaucera. Si vous les faites avec foi, Dieu vous fortifiera. C'est important. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Josué de se fortifier? Vous avez vu? C'est pour ainsi dire la seule chose que Dieu demande à Josué. Pourtant, la tâche était quand même un petit peu ardue. Conquérir le pays de Canaan. Ils entendaient ça depuis des centaines d'années. Et ils se trouvent confrontés à ce vaste pays à conquérir. Et Dieu lui dit, écoutez-moi bien, fortifie-toi et prends courage. Mais écoutez bien mes frères et sœurs, parce qu'il y a des choses qui débloquent les cœurs. Dieu aurait pu dire à Josué, écoute-moi Josué, il a dit plusieurs fois, fortifie-toi et prends courage afin de devenir le plus grand homme d'État d'Israël. Bon, est-ce que Josué est devenu un grand homme d'État? Ah ouais, franchement oui. Dieu aurait pu lui dire, écoute Josué, fortifie-toi et prends courage afin de devenir le militaire le plus compétent de l'histoire d'Israël. Est-ce que Josué a été un expert en sciences militaires? Moi, je trouve qu'il s'est bien débrouillé. Non, c'est vraiment un grand militaire, Josué. Mais Dieu n'a pas dit à Josué, fortifie-toi pour devenir un bon général, fortifie-toi pour devenir un très bon chef d'État, fortifie-toi pour observer la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez le raccourci. Fortifie-toi seulement afin d'observer la parole de Dieu et tu réussiras. Mes frères et sœurs, être fortifié, ça passe par le respect de la parole de Dieu. Fortifie-toi seulement afin de mettre en pratique la parole de Dieu. Vous connaissez ce texte, c'est dans Josué au chapitre 1er. Vous pourrez le vérifier. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut être fortifié. Néhémie a eu besoin d'être fortifié, il a demandé à Dieu. Dieu demande à Josué, fortifie-toi. Comment? On va le lire, on va le lire. Regardez avec moi, Josué chapitre 1er. C'est bien, après tout, on peut le lire. On ne peut pas faire mieux d'ailleurs que de lire Josué chapitre 1er. À partir du verset 6, bon, le verset 5 est rempli de promesses. Bon, les promesses, c'est bien les promesses. Mais il faut avoir une attitude qui va faire qu'on pourra les mettre en pratique. Il y a des gens qui ont des boîtes à promesses. Vous savez que ça existe, il y a des boîtes à promesses. Alors le matin, vous savez, pour moi, c'est comme la bonne aventure, ça. Ils prennent, tac, une carte et ils lisent une promesse. Je voudrais pas critiquer qui que ce soit, mais je pense qu'il vaudrait mieux être un peu plus profond. Il vaut mieux plutôt s'inquiéter de notre piété que des promesses. Il y a les promesses, mais regardez pour qu'elles s'accomplissent. Josué chapitre 1er verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement. » Le mot « seulement » indique que c'est la seule chose à faire. Pas la peine de chercher 36 méthodes. Et bon courage. Alors regardez bien. « En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. » Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Le reste, ça veut dire, tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et il recommence, On a l'impression que Dieu n'a que ça à lui dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Pour faire l'œuvre de Dieu, que ce soit pour Josué, que ce soit pour Néhémie, que ce soit pour les chrétiens de Toulouse, ça repose sur un même principe. Fortifiez-vous et prenez courage. Vous voulez voir l'œuvre de Dieu se faire dans votre vie personnelle? Fortifiez-vous, agissez fidèlement selon ce qui est écrit. Mais c'est extraordinaire parce qu'on ne se rend pas compte que tout dépend de cet état de cœur que l'on obtient lorsque l'on se met à vivre ce que Dieu nous demande de vivre. On peut faire les choses sans les vivre. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui se découragent, qui abandonnent Dieu, qui sont tout le temps dans la confusion, parce qu'ils confondent l'apparence de la piété et la piété. Ils confondent la religion et la spiritualité. Ils confondent la présence physique dans une église et véritablement l'obéissance de cœur. Dieu lui dit, voilà, écoute, si tu agis fidèlement selon la parole, tu réussiras. Et c'est ce qu'il a fait. Vous voulez réussir? Vous voulez voir l'œuvre de Dieu prospérer? Vous voulez vraiment être fort, être debout quand Jésus va revenir? Serez-vous debout quand Jésus va revenir? Ça dépend de qui? De vous? Ça dépend de vous? Que t'importent les autres, dit Jésus, te dit. Toi, suis-moi. Moi, je veux être fortifié. Je veux veiller, je veux prier. Je vais faire la prière de Néhémie maintenant. Vous pouvez commencer la journée demain. Eh bien, Seigneur, fortifie-moi. Prenez courage, a dit Jésus. Prenez courage. Eh bien, je le prends. Ça, vous serez fortifiés. Alors, on va voir un ou deux exemples, parce que ça vaut quand même la peine d'y réfléchir. Comment être fortifié? Encore un texte, dans Éphésiens au chapitre 6. Le chapitre 6 d'Éphésiens, c'est l'aboutissement. C'est une épître qui est pour l'Église, l'aboutissement de la vie chrétienne. Il y a un combat humain, mais il y a surtout un combat spirituel. Si Dieu nous ouvrait les yeux dans l'invisible pendant quelques secondes, je pense qu'on prendrait peur. Je vous assure, si Dieu nous ouvrait les yeux 20 secondes, je suis sûr qu'il n'y a personne qui dort de la nuit. Dans Éphésiens chapitre 6, c'est l'aboutissement, il y a tout un enseignement qu'on n'abordera pas maintenant, bien sûr. Mais après, il y a un combat, vous le savez, nous devons combattre. Il y a des chrétiens, ils ne veulent pas combattre. Non, j'ai pas envie, pourtant, nous avons à combattre. Dieu l'a voulu ainsi. On pourrait dire, mais pourquoi? Mais parce que c'est comme ça. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, donc, après tout ce qui a été dit dans la vie, parce qu'il y a la vie de couple, la vie de famille, etc., au niveau humain, au niveau social, au niveau professionnel, au reste... Donc, pour pouvoir faire en sorte que toutes choses se réalisent, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Donc, nous avons à lutter contre les esprits méchants. Et au verset 16, bon, il y a toute la panoplie du soldat, là. Mais au verset 16, il indique ceci. « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc c'est dans quel but? Eh bien d'être fortifié dans le Seigneur. Il y a des chrétiens qui disent, mais je ne comprends pas, je suis toujours faible, j'en ai assez, je suis crevé, je suis fatigué, j'en peux plus, pourtant je vis à l'église, pourtant je prie, pourtant je lis ma Bible. Mais voyez, on n'a pas à juger. Mais franchement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment je lis ma Bible? Comment je vais à l'église? Comment je prie? Vous croyez que Dieu nous aurait trompés? Il y a quelqu'un qui aurait le culot de se lever et de dire ça en public, dans une église, dans la maison de Dieu, je prie, ça sert à rien, je lis, ça sert à rien, je vais à l'église, ça sert à rien. Honte à vous si vous êtes capable de dire ça. Ou alors vous êtes inconscient. Dieu a institué ces choses pour que l'on les vive vraiment. Et si un homme utilise le bouclier de la foi, eh bien, il pourra éteindre tous les traits enflammés du malin. que le nom du Seigneur soit béni. Mais il faut le prendre, il faut le prendre. Et quand on est confronté à une situation, je ne sais pas, on va se lever, on va recevoir une mauvaise nouvelle, est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça peut arriver, quelqu'un qui vous appelle? Oh, et normalement, pendant la conversation téléphonique, ou juste après avoir accroché, vous allez dire, non, ne te laisse pas vaincre par le mal, surmonte le mal, par le bien. Ne vous inquiétez de rien. Ça ne vous revient pas à l'esprit des fois? Vous savez, moi ça m'arrive, je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas, si je fais bien de vous le dire. Maintenant ça va mieux, mais il y a une époque, quand j'arrive à l'église le matin, le dimanche matin, c'est impressionnant comment tout est fait des fois pour que la prédication nous sorte de la tête ou du cœur. Par exemple, il y a quelqu'un qui va venir, « Ah, monsieur Gouff, il faut que je vous parle, j'ai besoin d'argent, aidez-moi, alors il faut que je vous voie, il faut que je vous parle. » Pas, vous arrivez au bout de là, quelqu'un d'autre, « Ah, monsieur Gouff, il faut que je vous parle. » Et à une époque, j'ai vraiment prié pour que ça s'arrête, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que tout est fait pour que nos pensées soit dispersé. Et je crois que quand on a quelque chose, quand on doit faire, c'est pour ça que je dis, écoutez, on en parlera après le culte, ça m'embrouille vraiment, mais vous savez, c'est quand même quelque chose, la prédication, vous le comprenez. Et je crois qu'il faut faire toujours attention, que l'on soit pasteur ou pas, il faut rendre nos pensées captives à l'obéissance de Christ, afin que le Saint-Esprit puisse continuellement nous rappeler les choses que nous avons entendues. Quelqu'un qui est en communion avec Dieu, il a continuellement la possibilité d'utiliser le bouclier de la foi. Vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et je ne sais pas combien de fois il faut utiliser le bouclier par jour. Tiens donc. C'est vrai qu'il y a des journées, c'est intense le combat, c'est pas vrai? Est-ce que ça doit être une bénédiction? Et il ne faut pas utiliser, il ne faut pas partir. Une fois, j'avais eu comme cette image d'un chrétien, parce qu'il y avait un chrétien qui m'avait dit, mais moi je suis optimiste, je n'ai pas besoin de tout ça. Un chrétien, hein? Et le Seigneur m'avait comme montré un bouclier en carton, qu'il utilisait un bouclier en carton. Et c'est un bouclier. Et je lui ai dit, quand je l'ai revu quelques jours après, j'ai dit, tu vois ton optimisme, c'est un bouclier, mais il est en carton. Et tu vois, au bout de 3 ou 3 traits, il va brûler ton carton. Est-ce que c'est bien d'être optimiste? Mais le combat spirituel ne se gagne pas avec l'optimisme. Il vaut mieux être optimiste que pessimiste. Mais je crois que le mieux, c'est d'être réaliste. Tant mieux que les gens qui ont cette joie de vivre naturelle. Mais le combat, il se gagne pas avec des optimistes. Le combat, il se gagne avec des gens spirituels qui combattent le bon combat avec des armes spirituelles. Dieu a voulu que pour que son œuvre se fasse, ça ne se fasse pas avec l'intelligence, avec les facultés humaines. L'œuvre de Dieu, elle se fait avec des armes spirituelles. Et quand Jésus dit « Tu te fortifieras », de cette façon, tu utiliseras le bouclier de la foi. Alors, c'est vrai que c'est spirituel, mais ça s'explique très vite. Une mauvaise nouvelle, une mauvaise pensée. Moi, je vous ai déjà raconté au début que je suis arrivé ici, que Dieu m'a libéré avec cet ordre. Ne t'inquiète de rien. C'était en Polynésie où j'étais en train de me préparer à abandonner le ministère. C'était quand même sérieux. Et je me souviens de ce jour où j'étais à genoux, mais découragé, j'étais toujours découragé. Je m'en souviens, c'est facile à retenir, j'étais toujours découragé. J'ai presque jamais prêché avec joie pendant 3 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai peut-être en 3 ans préparé 2 prédications avec joie. Ça vous donne l'état d'esprit, et pourtant j'aimais Dieu, mais vous voyez ce que je veux dire? Et j'étais sérieux, c'est comme un cuisinier, est-ce qu'un cuisinier qui... même s'il n'a pas de joie, peut faire un plat avec sérieux. Ben oui. Et je me souviens de ce jour où j'étais en train de me préparer, mais vraiment, je me préparais psychologiquement, ça faisait 5 ans et demi que ça durait quand même, en vérité. Et j'étais à genoux et j'allais arrêter. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, ne t'inquiète de rien, c'est un ordre. Et je me suis levé, mais j'étais comme un aigle. Vous savez quand vous êtes... Je suis sorti de l'église, j'ai l'impression de voler. Et en plus, j'étais tout le temps en conflit. Vous savez comment c'est quand ça ne va pas, on est en conflit avec les gens. Et quand je me suis levé, que j'entends, ne t'inquiète, j'étais à genoux, t'inquiète de rien, c'est un ordre, je me suis levé. Je savais que Dieu m'avait parlé. J'avais compris que c'était un ordre. Que le prêcher, ne t'inquiète de rien. C'est facile de dire à une sœur, mademoiselle, ne vous inquiétez de rien. Non mais, entre le dire et le vivre, et je savais qu'il me fallait maintenant le vivre. Et la deuxième parole que Dieu m'a adressée quand je me suis levé, ne combat plus contre la chair et le sang. Et j'ai eu l'impression qu'une prison explosait, que les boulets, que j'avais des boulets aux pieds, et qu'ils étaient détachés. Et j'étais libre. C'est pour ça que quand je suis arrivé de Tahiti, j'arrêtais pas de vous dire, ne vous inquiétez de rien. Vous vous rappelez? Je vous l'ai dit souvent. Mais parce que j'avais été marqué, et je sais qu'il envoie sa parole, et il nous guérit. C'est pas écrit, il envoya sa parole et il est guéri. Et quand Dieu dit à un homme comme Josué qui va amener la bénédiction dans tout un pays, je te demande une chose, Josué, une chose, fortifie-toi et tu réussiras. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas changé d'avis. Ce soir, il te dit la même chose, mon enfant. Fortifie-toi seulement et prends courage et tu réussiras. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous réussissions. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que nous réussissions dans nos entreprises, dans notre foyer. Votre couple doit être un couple béni. Oui ou non? Voilà. Votre maison doit être une maison bénie. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est pas des balivernes. C'est pas l'évangile de la prospérité. C'est écrit quelque part. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça, mes frères et sœurs, et vous qui découvrez l'évangile, appliquez-vous à lire la parole de Dieu. Comme ça, quand vous prendrez le bouclier, vous saurez de quoi vous parlez. Quand vous direz, moi, Seigneur, bénis ma famille, et le diable va vous dire, mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Si Dieu veut bénir ta famille, mais vous pouvez dire, mais c'est écrit. Toutes les familles de la terre seront bénies. C'est ça, utiliser le bouclier de la foi. Mais si vous ne lisez pas les Écritures, vous ne pouvez pas. Un soldat, il doit... Ça s'apprend, le maniement des armes. Et comment ça s'apprend? En méditant la parole de Dieu. Regardez comment Abraham l'avait appris, le maniement des armes. Dans Romains, au chapitre 4. C'est un des textes qui m'a énormément interpellé, justement, tiens, quand j'étais aussi en Polynésie. Romains, chapitre 4, versets 19 à 21. Cette force, elle correspond à une autre expression dans la Bible qui s'appelle une pleine conviction. C'est écrit quelque part, ayez une pleine conviction. Comment c'est écrit? Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Romains, je crois que c'est Romains 14. Romains chapitre 4, verset 19. Nous avons l'exemple d'un homme qui n'a pas faibli, donc qui a résisté, qui a été ferme, parce que c'est l'inverse. Romains 4, 19. Et sans faiblir dans la foi. Ça vous intéresse ça? Est-ce que ça vous intéresse de ne pas faiblir? Bon, alors la suite vous intéresse. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne considère pas son corps qui était déjà usé. Parce que quand Dieu lui a fait la promesse, il avait quel âge? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? 60, comment? Non, quand il a eu l'enfant. Mais il a eu, c'est à 75 ans que Dieu lui a fait la promesse. Mais là, il est arrivé, bon, il n'a eu qu'à 99 ans. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé, qu'il avait près de 100 ans. Pardon. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais, regardez bien, il fut fortifié par la foi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ça n'a pas empêché qu'entre 75 ans et 90 ans, il y a eu quand même deux ou trois bugs, vous le savez, mais il n'empêche qu'il s'est ressaisi. Bon, ça peut arriver qu'en attendant une promesse, on puisse commettre une erreur. Ce n'est pas pour ça que Dieu va annuler la promesse. Mais une chose est certaine, il a été fortifié par la foi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Mais rien. Quand vous avez 99 ans, que votre femme est un peu plus jeune qu'elle n'a elle que 90, et que vous n'avez pas encore d'enfant, que vous avez essayé d'en avoir un par la servante, c'était quoi? C'était une mère porteuse, en fin de compte, ça, c'est pas d'aujourd'hui, la mère porteuse. Et que vous arrivez là, qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Mais, il avait une promesse, et il a glorifié Dieu. Vous savez, nous serions pas loin d'un réveil. Si quand le matin nous nous levons, tous les chrétiens de Toulouse, nous nous mettions à la place de nous plaindre et de gémir, à glorifier Dieu. Je suis persuadé que nous serions peut-être pas si loin que ça d'un véritable réveil si les chrétiens, quand ils se lèvent le matin, disaient « Seigneur, je te glorifie ». Si vous avez le cafard pendant 2 heures parce qu'il pleut, moi je peux vous dire que vous devez remercier Dieu pour la pluie. Mais vous ne vous rendez pas compte. Quand j'écoute parfois les météorologues à la télé qui présentent la pluie comme une catastrophe, « Oh, nous aurons encore de la pluie pendant 3 jours », mais ils sont irresponsables. Parce que je peux vous dire que les nappes phréatiques sont au plus bas et que c'est peut-être très bien pour l'été qu'on ait de l'eau, moi je vous le dis. À quoi nous pensons? Voilà, c'est bien la preuve que l'homme ne pense qu'à lui. Bénissez Dieu pour la pluie. Si vous avez un problème avec ça, partez avec monsieur et madame Bordeneuve pendant 3 mois au Niger et vous verrez que vous risquez de glorifier davantage Dieu chaque fois qu'il y aura 3 gouttes de pluie sur le pare-brise. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Un chrétien, il ne va pas être fortifié parce qu'il a entendu une prédication. Il va être fortifié parce qu'il va réagir comme Josué. Il va réagir comme Néhémie. Il va être confronté aux mêmes souffrances. Josué a été confronté à de l'opposition. Néhémie a été confronté à de l'opposition. Nous sommes confrontés à de l'opposition, mais nous avons un choix. Celui ou de bouder, ou de nous comporter comme les païens, ou alors de glorifier Dieu. Il n'a fait qu'une chose, Abraham. Et je suis sûr que quand il sortait le soir, qu'il regardait les étoiles, puisque Dieu l'avait fait sortir de sa tente, vous rappelez. Et moi, quand je regarde les étoiles, je pense toujours à cette histoire. Ça ne vous arrive pas quand vous voyez les étoiles? Moi, je pense presque toujours à cette histoire. Et il a glorifié Dieu. Il devait sortir le soir de sa tente. Hein? Seigneur, je te remercie. Tu m'as dit que j'aurais autant d'enfants, sinon plus, que toutes les étoiles. Ça, c'est mal parti, Seigneur. C'est très, très mal parti. Mais je veux te glorifier. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous voulez être fortifiés? Glorifiez Dieu en rentrant. Glorifiez Dieu. Demain matin, quand vous vous levez, remerciez Dieu. Remerciez Dieu d'avoir des jambes, des bras, d'avoir des yeux, des oreilles, d'avoir une église, d'avoir du pain, d'avoir, je ne sais pas, peut-être que vous avez de l'eau en abondance, peut-être que vous avez, je ne sais pas, peut-être que vous avez un congélateur. Est-ce que c'est tout le monde qui a un congélateur? Avec de la viande, est-ce qu'il y en a? Mais vous savez combien de gens sur la terre ne pourront jamais, jamais acheter un livre? Parlons pas d'une voiture. J'ai entendu des économistes dire qu'il y a au moins 1 milliard à 2 milliards de personnes qui, sur la Terre, ne pourront jamais acheter un livre. C'est vrai. Si vous voulez acheter un livre, vous pouvez. Nous ne rendons pas compte, mes frères et sœurs, vous voulez être fort? Vous voulez être surtout debout quand Jésus va revenir? Parce que ça tient debout. Si vous voulez être debout, il faut être fort. Si vous voulez être fort, il faut être fortifié. Et si vous voulez être fortifié, il faut rendre gloire à Dieu. Et si vous voulez faire l'œuvre de Dieu, il faut que vous méditiez sa parole. Et dire, Seigneur, tu as dit ça, tu as dit de ne pas m'inquiéter. Eh bien, je le prends au sérieux. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ah, tu me donnes un ordre? Mais mes frères et sœurs, les ordres de Dieu sont beaucoup plus judicieux que les promesses. D'ailleurs, c'est là qu'il dit, si tu étais attentif à mes commandements. Il n'a pas dit, si tu étais attentif à mes promesses. Bah, les chrétiens, ils sont attentifs aux promesses. Mais le problème, c'est que les promesses, pour qu'elles s'accomplissent, il faut observer les commandements. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais il ne faudrait pas trop s'attacher à combler de bénédictions. Il faudrait s'attacher à fidèle. Un homme fidèle. Le reste, ne vous inquiétez pas, ça suivra. Abraham, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas faire autre chose. David, il était fortifié et Dieu l'a utilisé. Vous voulez que Dieu vous utilise? Ben soyez fidèle. Il avait appris, David, à combattre l'ours, à combattre le lion. Quand il voyait un lion, il ne disait pas « Oh, il n'y a personne, vite sur un arbre. » Non. Parce que quand même, je termine avec cette pensée. Quand David était seul, qui gardait les brebis de son père, combien de brebis avait-il? Est-ce que quelqu'un sait combien de brebis il avait ou d'agneaux? Un troupeau, la moyenne d'un troupeau, c'est combien? 150, 200, comme il en avait. Bon, imaginez au printemps. Tiens, au printemps, là, au mois d'avril, en Israël un peu plus tôt sûrement, les brebis mettent bas, donc sur un troupeau de 300, admettons, il y a 200 agneaux, ça fait 500, il y a un lion qui vient, 512 brebis ou 513... Aujourd'hui, franchement, il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils diraient? Une de plus, une de moins. C'est pas vrai? le lion là-bas qui attaque un agneau, un de plus, un de moins, on va pas faire une histoire. Je vais pas risquer ma vie, moi, pour un agneau de 30 euros, quoi. Mais est-ce que ça tient debout ce que je dis? Est-ce que c'est pas comme ça que les gens feraient aujourd'hui? Pour 30 euros? Me faire tuer pour 30 euros? Parce que c'est ça. Mais c'est une question qu'on peut poser, c'est un vrai débat, ça. Qu'est-ce que c'est qui avait le plus de valeur? La vie d'un agneau à 30 euros? Ou la vie de David? Est-ce que c'est une question qui est intelligente? Oui. C'est une question intelligente. Qu'est-ce que c'est qui valait le plus? Un agneau de 30 euros ou la vie de David? Alors tout le monde va dire, mais c'est la vie de David. Mais pourquoi je pose cette question? Parce que notre vie ne vaut rien si on n'est pas capable de faire face à nos responsabilités. C'est ça que Dieu veut nous enseigner. Nous avons tous le devoir d'exercer la responsabilité que Dieu nous donne. Et c'est pour ça que Dieu a béni cet homme. Et quand il s'est avéré que des choses plus importantes se présenteraient dans sa vie, eh bien il était fortifié. Quand il est arrivé sur le champ de bataille et que ses frères ont commencé à le traiter d'orgueilleux, tout ça, est-ce qu'il a eu peur de ses frères? Non, quand le roi a commencé à le dissuader que c'était qu'un jeune enfant et qu'il n'avait pas à se battre contre cette machine de guerre, est-ce qu'il a eu peur des paroles du roi? Non, quand Goliath a essayé de l'impressionner avec sa carrure et tout, est-ce qu'il a eu peur? Non. Pourquoi? Parce qu'il était fortifié et parce qu'il avait été fidèle. Néhémie a été fidèle, Josué a été fidèle. Mes frères et sœurs, soyons fidèles, pas à la maison de Dieu, pas qu'à la maison de Dieu. Tout à l'heure, demain matin, si Dieu ce soir vous parle et vous dit par le biais de mon ministère, soyez fidèles, fortifiez-vous seulement et prenez courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, selon toute la parole de Dieu. Veillez-y, marquez-les, soulignez-les, surlignez-les, écrivez-les, relisez-les, repassez-les dans votre cœur. Mes frères et sœurs, celui qui médite la parole de Dieu, il sera fortifié. Et quand Jésus paraîtra, l'œuvre de Dieu aura été faite, vous aurez entretenu votre salut, et quand vous passerez devant Dieu, vous aurez eu la joie d'être debout devant le Fils de l'homme. Mes frères et sœurs, c'est le seul moyen d'être debout, d'être fortifié par la puissance du Saint-Esprit. Fermons les yeux quelques instants, s'il vous plaît. Dieu savait qui serait là ce soir. Y a-t-il quelqu'un qui veut être fortifié? Vous ne le serez pas en disant « Seigneur, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi ». Non, soyez sérieux. Abraham a dû glorifier Dieu pendant 25 ans. 25 ans. Il a donné gloire à Dieu. Néhémie, il a fait l'œuvre de Dieu, il a supplié Dieu de le fortifier. Josué, a dû méditer la parole de Dieu. Pas pour devenir, comme je l'ai dit, un bon militaire, pour connaître la parole. Est-ce que vous voulez être fort? Parce que c'est la volonté de Dieu que vous puissiez dire « Oui, je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est comme Dieu veut que vous soyez riche, ça c'est évident. Alors je répète spirituellement bien sûr, Dieu le veut. Dieu veut que vous soyez fort. Mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu elle se fera avec des hommes et des femmes qui utilise le bouclier de la foi. Les souffrances sont imposées à tout le monde. Les épreuves sont imposées à tout le monde. N'écoutez pas les vieux prophètes, vous avez compris l'expression. N'écoutez pas les chrétiens qui ne sont pas spirituels et qui vous font rabaisser le niveau de la parole. Écoutez la parole de Dieu. N'écoutez pas les mauvais conseils. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ce soir à qui on a dit « Mais c'est pas grave, si tu te repens pas, si tu te convertis pas, tu peux être chrétien. » On l'entend de plus en plus. Tu peux être sauvé si tu ne te repens pas. Ça, c'est le conseil du vieux prophète qui ment. Et si vous écoutez ces mensonges, le diable, il vous dévorera. Ouais, c'est comme ça que ça se passera. Et si vous veillez, le diable, il ne vous touchera pas. Vous rappelez Daniel, dans la fosse aux lions, lui? Les lions, est-ce qu'ils ont pu le toucher? Non. Pourquoi? Parce qu'il avait obéi à Dieu et il avait honoré le roi. Il n'avait pas qu'obéi à Dieu, il avait honoré le roi. Et si vous honorez l'Église, si vous honorez les gens à côté de vous, si vous honorez la parole, le diable, il ne vous touchera pas. Vous entendez? Le diable, il ne pourra pas vous toucher. C'est écrit, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit. Le diable, il ne touche que ceux qui n'écoutent pas Dieu. Si vous écoutez Dieu, vous vivrez l'expérience de Daniel, les lions ne vous toucheront pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre Père, tu nous as donné un rendez-vous ce soir. Comme nous l'avons chanté, oui, tu veux nous bénir tous, tu veux nous sauver tous, tu veux nous guérir tous. Tu n'es pas un Dieu qui dispense au goutte à goutte. Tu es un Dieu qui donne l'abondance. Et nous refusons une foi de routine. Nous refusons, Seigneur, une foi superficielle, une foi de religion. Nous voulons te supplier de délivrer les chrétiens qui sont enfermés dans la crainte, enfermés dans le doute, enfermés dans la défaite. Tu es un Dieu de délivrance. Seigneur, s'il te plaît, ce soir, déverse ton onction sur ton Église, que les croyants ressortent fortifiés comme Néhémie, comme Josué, comme Abraham, comme David, afin que l'œuvre de Dieu se fasse. Tu délivres de la timidité, afin que ta maison devienne la maison de Dieu, remplie de feu, remplie du Saint-Esprit. Seigneur, nous te supplions de bénir tous ceux qui se sont levés, afin que ce soir, ils fassent partie de ceux qui se feront violence et qui s'empareront du royaume des cieux, qui s'empareront des promesses. S'il te plaît, Seigneur, libère tous ces croyants. Que vraiment cet esprit de timidité soit délié, que véritablement les chrétiens qui sont enfermés dans la crainte soient déliés et que vraiment la vie de l'esprit envahisse cette église. Merci Seigneur Jésus.